Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais parfois une prédication ou une méditation me touche et reste gravée dans ma mémoire pendant des années. Mais parfois, en fait, je me souviens plus de l'effet produit ou du raisonnement que du texte lui-même, que du texte utilisé par le prédicateur. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à la prédication pour ce matin, je recherchais quelque chose que je retiens de l'enseignement de Samuel. Et je n'ai pas eu à chercher très longtemps. Très rapidement m'est revenue une de ses premières interventions. Nous échangions avec lui avant qu'il ne devienne notre pasteur. Et nous parlions cahier des charges. Et il nous a répondu en disant qu'il savait ce qu'il avait à faire. Il a cité une prophétie de l'Ancien Testament. Je chercherai la brebis qui sera perdue. J'amènerai celle qui sera éloignée. Je panserai celle qui a la patte cassée. Et je fortifierai celle qui est malade. Bien sûr, Samuel n'a pas manqué de nous rappeler que c'est du Seigneur dont il est question ici. C'est lui, le bon berger. Mais même si le pasteur n'a aucune chance d'arriver au niveau de service du Seigneur, c'est tout de même en lui qu'il trouve son modèle. Je parlais de ces fois où l'on se souvient plus du raisonnement que du texte lui-même, et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai eu bien du mal à retrouver ce passage. C'est Samuel qui m'a soufflé qu'il pouvait s'agir d'Ézéchiel, le chapitre 34, et c'est le texte que je souhaite lire ce matin pour servir de support à ma prédication. Je vous invite donc à lire dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, et nous lirons le chapitre en entier. Si tu peux me laisser le noir, celle d'avant. Merci, Anna. Voilà, Ézéchiel 34. La parole du Seigneur me parvint. Humain, parle en prophète sur les bergers d'Israël. Parle en prophète et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur Dieu. Quel malheur pour les bergers d'Israël qui se repaissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître le troupeau? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez sacrifié les bêtes grasses, vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas fait reprendre des forces aux bêtes qui étaient faibles, soigner celles qui étaient malades, panser celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et avec rudesse. Elles se sont dispersées, faute de bergers. Elles sont devenues la proie de tous les animaux sauvages. Elles se sont dispersées. Mon troupeau erre dans toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur tout le pays. Personne n'en prend soin, personne ne le cherche. À cause de cela, berger, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, déclaration du Seigneur Dieu, à coup sûr, parce que mon troupeau est livré au pillage et parce qu'il est devenu la proie de tous les animaux sauvages, faute de berger, parce que mes bergers ne prenaient aucun soin de mon troupeau, parce que les bergers se repaissent eux-mêmes et ne faisaient pas paître mon troupeau, à cause de cela, berger, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je m'oppose aux bergers. Je leur réclamerai mon troupeau. Je ne les laisserai plus paître mon troupeau pour que les bergers ne se repaissent plus eux-mêmes. J'arracherai mon troupeau de leur bouche et il ne sera plus une proie pour eux. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais moi-même prendre soin de mes bêtes et les passer en revue. comme un berger passe en revue son troupeau quand il est au milieu de ses bêtes éparpillées, ainsi je passerai en revue mon troupeau et j'arracherai mes bêtes de tous les lieux où elles ont été dispersées un jour de nuée et d'obscurité épaisse. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai de tous les pays, je les ramènerai sur leur terre, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les ravins et dans tous les lieux d'habitation du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur domaine sera sur les montagnes qui dominent Israël. Là, elles se coucheront dans un bon domaine, et elles pourront paître de gras pâturage dans les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui ferai coucher les bêtes, déclaration du Seigneur Dieu. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, et je ferai reprendre des forces à celle qui est malade, mais je détruirai celle qui est grasse et forte. Je les ferai paître avec équité. Quant à vous, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je juge entre bête et bête, entre bélier et bouc. Ne vous suffit-il pas de paître dans de bons pâturages, que vous le fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage? Ne vous suffit-il pas de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Mon troupeau doit paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur Dieu, c'est moi-même qui jugerai entre les bêtes grasses et les bêtes maigres. Parce que vous avez poussé avec le flanc et avec l'épaule, parce que vous avez frappé de vos cornes toutes les bêtes faibles jusqu'à ce que vous les ayez dispersées au dehors, je sauverai mon troupeau, afin qu'il ne soit plus livré au pillage, et je jugerai entre bête et bête. Je nommerai à leur tête un seul berger qui les fera paître, David, mon serviteur. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu, et David, mon serviteur, sera prince au milieu d'eux. C'est moi, le Seigneur, qui ai parlé. Je conclurai pour eux une alliance de paix, je les ferai disparaître du pays des animaux féroces, ils habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des broussailles. Je ferai d'eux et des environs de ma colline une bénédiction, j'enverrai la pluie en son temps, ce seront des pluies de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et le pays donnera sa production. Ils seront en sécurité sur leur terre. Ainsi, ils sauront que je suis le Seigneur, quand je briserai les liens de leurs joues, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Ils ne seront plus livrés au pillage parmi les nations, les animaux sauvages ne les dévoreront plus, ils habiteront en sécurité, et il n'y aura personne pour les troubler. J'aménagerai pour eux une plantation de renom, ils ne seront plus emportés par la famine dans le pays, ils ne seront plus chargés d'insultes par les nations. Ainsi, ils sauront que moi, le Seigneur, leur Dieu, je suis avec eux et qu'ils sont mon peuple, eux, la maison d'Israël. Déclaration du Seigneur Dieu. Vous, mon troupeau, le troupeau que je fais paître, vous êtes des êtres humains. Moi, je suis votre Dieu. Déclaration du Seigneur Dieu. Notre passage commence ainsi. La parole du Seigneur me parvint, humain, parlant prophète sur les bergers d'Israël. L'auteur qui s'adresse à nous le fait de la part du Seigneur. C'est lui qui lui indique ce qu'il doit dire. C'est donc un prophète. Et en l'occurrence, il s'agit du prophète Ézéchiel. Il est bon de prendre un moment pour parler de cet homme et du contexte dans lequel il a vécu. En effet, cette parole du Seigneur ne tombe pas par hasard. Elle passe par la bouche d'un homme spécifique, ici Ézéchiel, et elle est adressée à ses contemporains. Si nous voulons bien comprendre ce qu'elle a à nous dire, il est bon de prendre un temps pour nous souvenir à qui cette parole était adressée et comprendre ce qu'elle pouvait leur apporter. Ézéchiel a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ceci n'est peut-être pas très parlant pour ceux d'entre vous qui n'ont pas une frise historique dans la tête. En revanche, il est utile de rappeler qu'à cette époque, le peuple d'Israël vivait en exil à Babylone. Si vous êtes un peu familier avec l'Ancien Testament, vous vous souvenez que le peuple d'Israël, le peuple que Dieu s'est choisi, ne lui est pas resté fidèle. Ils n'ont pas respecté ses commandements, ni ceux régissant la façon de vivre les uns avec les autres, ni ceux régissant le culte à rendre à Dieu seul. Entraînés par leur roi, ils se sont mis à adorer d'autres dieux. Ces rois n'étaient pas seulement de mauvaises influences spirituelles, ils se sont aussi avérés être de mauvais conducteurs. Ils ont fait des erreurs géopolitiques, ils se sont alliés aux mauvaises puissances plutôt que de faire confiance au Seigneur. Ils ont finalement essuyé des défaites militaires et le pays a été envahi, sa capitale, Jérusalem, détruite et le peuple déporté. La Bible est claire. Ces défaites ne sont pas survenues par hasard, elles étaient voulues par Dieu. Il les avait annoncées à travers ses prophètes et il les a utilisées comme punition pour reprendre son peuple infidèle, pour lui faire prendre conscience du mauvais chemin dans lequel il allait. C'est donc à un peuple en exil, à un peuple déraciné, loin de chez lui, au milieu de populations pas forcément favorables, que s'adresse Ézéchiel. L'introduction de la Bible d'études Semeur nous explique que, dans la première partie de son ministère, Ézéchiel s'est employé à détruire les illusions de ses compatriotes qui s'imaginaient que l'exil serait de courte durée et qu'ils allaient bientôt rentrer au pays. Au contraire, il annonce la destruction totale de Juda et la déportation de l'ensemble de la population par les Babyloniens. Après la ruine de Jérusalem, Ézéchiel commence une seconde partie de sa prédication. Après avoir contemplé l'œuvre divine de restauration future, il rend compte au peuple afin de les encourager à se retourner vers Dieu. Et le passage que nous venons de lire ouvre cette deuxième partie, partie d'encouragement et de promesse de restauration. Maintenant, penchons-nous sur le texte lui-même. De quoi parle notre texte ? Alors, voici une autre façon de voir notre passage. Les mots sont un peu mélangés, mais la taille des mots est proportionnelle au nombre de fois où ils apparaissent dans le texte. Et on voit ici ce que vous avez certainement entendu à la lecture. Si notre texte parle du Seigneur, de l'Éternel, il parle aussi beaucoup de brebis et de bergers. Là encore, si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, vous savez que Dieu compare souvent son peuple à un troupeau de brebis. Et du coup, si le peuple est un troupeau, eh bien, les bergers, ce sont ceux qui le conduisent, qui le dirigent, ses chefs, les rois, les chefs religieux, etc. Notre texte est composé de deux grandes parties. La première, des versets 1 à 16, Et la seconde, des versets 17 à 31, il s'agit de deux jugements de la part de Dieu, deux jugements que Dieu adresse à deux cibles différentes. Le premier jugement, Dieu l'adresse à l'encontre des bergers. Quel malheur pour les bergers d'Israël qui se repaissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau ? Dieu reproche aux leaders du peuple de ne pas remplir leur rôle. Ils ne s'occupent pas du peuple dont ils ont la responsabilité. Vous n'avez pas fait reprendre des forces aux bêtes qui étaient faibles, soigner celles qui étaient malades, panser celles qui étaient blessées. Le roi doit prendre soin de ceux qui sont faibles. Il doit les protéger, les remettre sur pied, leur donner un moyen de subsister. Mais au contraire, le roi a profité de sa position dominante pour son propre intérêt. Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtu de la laine, vous avez sacrifié les bêtes grasses. Il les a exploitées, usant de sa position privilégiée pour son propre confort et son propre intérêt. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue. Le roi doit s'assurer que son peuple est dans le bon chemin. Il doit rendre la justice, redresser si besoin est, pour ramener dans le bon chemin. Mais au lieu de ça, le roi les a laissées livrées à elles-mêmes. Elles se sont dispersées, faute de bergers. Elles sont devenues la proie de tous les animaux sauvages. Mon troupeau erre dans toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur tout le pays. Après avoir erré dans son culte, à adorer d'autres dieux, voilà le peuple en exil géographique, dispersé loin de ses terres. Et ce ne sont pas de simples reproches faits par Dieu, mais c'est un jugement. À cause de cela, berger, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je m'oppose aux bergers. Je leur réclamerai mon troupeau. Je ne laisserai plus paître mon troupeau. Dieu relève les leaders du peuple de leurs fonctions. Incapables, ce ne sont plus eux qui s'occuperont du peuple de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui s'en occupera. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais moi-même prendre soin de mes bêtes. Mais avant de voir plus en détail le plan du Seigneur, regardons le second jugement. Le second jugement s'adresse au troupeau lui-même. Quant à vous, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je juge entre bête et bête, entre bélier et bouc. Le troupeau lui-même n'est pas exempt de reproche. Ne vous suffit-il pas de paître dans de bons pâturages, que vous fouliez du pied le reste de votre pâturage ? Ne vous suffit-il pas de boire une eau limpide, que vous troubliez le reste avec vos pieds ? On est loin de la loi donnée par Moïse, loi où l'homme est appelé à prendre soin de son frère, où le cultivateur est appelé à laisser le surplus disponible pour être ramassé par le pauvre. Là, l'individualisme règne. Chacun ne s'occupe plus que de ses besoins. Moi d'abord, et tant pis pour les autres. Mais plus encore, c'est la loi du plus fort qui règne. Vous avez poussé avec le flanc et avec l'épaule, vous avez frappé de vos cornes les bêtes plus faibles. Les membres du peuple les plus forts, ceux qui ont le plus d'influence ou le plus d'argent, n'hésitent pas à malmener, à exploiter leurs frères. Si bien qu'au sein même du peuple, certains s'engraissent sur le dos des autres. Aussi incompétent soit-il, le chef a bon dos. un mauvais roi ne dispense pas le peuple de chercher à bien agir. Chacun est toujours appelé à faire ce qu'il peut pour le bien de son frère. Aussi, contre le peuple aussi Dieu s'élève et juge. À cause de cela, ainsi leur parle le Seigneur Dieu, c'est moi-même qui jugerai entre les bêtes grasses et les bêtes maigres. Face à ces deux problèmes, incompétence des chefs et égoïsme du peuple, Dieu met en place une seule et même solution. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais moi-même prendre soin de mes bêtes et les passer en revue. Dieu va prendre les choses en main, en remplaçant les chefs défaillants, en faisant le tri au sein du peuple. Dieu promet, il sera lui-même le conducteur de son peuple. Il prendra lui-même soin de son troupeau. Il ramènera sur le droit chemin ceux qui s'égarent. Je chercherai la brebis qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Il prendra soin de ceux qui sont faibles. Je panserai celle qui est blessée. Et je ferai reprendre des forces à celle qui est malade. Il subviendra lui-même à leurs besoins, sans qu'aucun ne manque de quoi que ce soit. J'enverrai ma pluie en son temps. Ce seront des pluies de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et le pays sa production. Et il viendra juger, écartant ceux qui exploitent les autres. Je juge entre bête et bête, entre bouc et bélier. Au peuple qui souffre, en exil à Babylone, au peuple déraciné, au milieu de populations pas forcément favorables, Dieu annonce la fin de ses tourments, le retour dans un pays accueillant, l'abondance et la justice. Il annonce un berger qui prendra soin de lui, soin de son peuple. Ce berger ne fera qu'un avec Dieu, accomplissant sa volonté, prenant soin de son peuple comme s'il était Dieu lui-même. Ce sera un roi parfait. Je nommerai à leur tête un seul berger qui les fera paître, David, mon serviteur. Ce berger, nous le connaissons, c'est Jésus. C'est lui qui a dit, c'est moi qui suis le bon berger. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent, comme le Père me connaît et comme moi, je connais le Père. Et je me défais de ma vie pour mes moutons. Et en effet, nous qui connaissons la suite de l'histoire, nous savons ce que Jésus a accompli. Dieu disait, je chercherai la bête qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée. Eh bien, Jésus a dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu disait, je panserai la bête qui est blessée et je ferai reprendre des forces à celle qui est malade. À Jésus, on amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de tourments et il les guérit. Dieu disait, j'enverrai ma pluie en son temps, ce seront des pluies de bénédiction, l'arbre des champs donnera son fruit et le pays sa production. Jésus dit, c'est moi le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Dieu disait, je suis juge entre bête et bête, entre bouc et bélier. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns les autres, comme le berger sépare le mouton des chèvres. C'est Jésus qui accomplit la promesse du Seigneur. Il vient chercher celui qui était perdu et l'entraîne à sa suite. Il soigne celui qui est faible. Il le nourrit par sa parole. Il nous rassemble dans un bon pays et j'ai du mal à ne pas reconnaître dans ce bon pays l'Église, le lieu dans lequel nous sommes appelés à exercer notre amour les uns envers les autres, dans lequel nous sommes appelés à pratiquer les dons qu'il nous a donnés. Voilà donc le message que Dieu souhaitait annoncer à son peuple désemparé. Ce peuple en exil, loin de chez lui, ne sachant ce qu'il allait advenir. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour nous encore aujourd'hui que de savoir que le bon berger que nous suivons était annoncé et qu'il est venu et que Dieu tient ses promesses. Mais je crois que ce texte a aussi quelques prolongements pratiques dans nos vies. Nous l'avons vu, ce texte rappelle qui est le bon berger, celui auquel nous devons nous attendre. En lui, nous avons tout. Aussi, c'est vers lui que nous devons nous tourner. N'attendons donc pas le leader providentiel, ni dans l'Église, ni en politique, ni dans notre environnement professionnel, ni dans notre mariage, ou que sais-je. Bien sûr, nous pouvons tirer de grandes bénédictions d'un bon conjoint, d'un bon supérieur hiérarchique, d'un bon chef d'État, d'un bon pasteur. Qu'il est bon d'être conduit par un chef compétent, visionnaire et bon. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et de toute façon, ce chef ne nous apportera jamais tout ce dont nous avons besoin. Et lorsqu'il nous déçoit, souvenons-nous que celui qui s'occupe de nous, c'est Jésus-Christ. C'est vers lui qu'il faut se tourner. N'espérons pas en l'homme, espérons en lui. Ensuite, ce texte nous rappelle que nous avons toujours notre responsabilité de prendre soin les uns des autres. Jésus vient pour juger, séparer les béliers des boucs, les fidèles des rebelles. Notre texte nous rappelle que Dieu n'attend pas que nous prenions soin seulement de notre relation avec lui. Il attend également que nous prenions soin les uns des autres. L'amour que nous avons les uns pour les autres est le signe visible de notre appartenance au Seigneur, le baromètre de notre foi. Et nous avons tous un rôle à jouer pour le bien-être de son Église. Si nous n'avons besoin que de Jésus comme guide, si nous prenons soin les uns des autres, on pourrait presque se demander si nous avons toujours besoin de pasteurs. Je le crois. Sans me lancer maintenant dans une démonstration, je rappellerai simplement que c'est Jésus qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Jésus souhaite que nous participions tous à l'établissement de son Église. Pour cela, il nous a donné à tous des dons différents. Parmi eux, il a choisi des pasteurs, des bergers, et quel meilleur modèle pour eux, comme pour chacun d'entre nous, que le bon berger, Jésus. Au moment de conclure, que retenir de cette prophétie d'Ézéchiel ? Retenons que Dieu a bien repris les choses en main. Il ne nous laisse pas entre les mains de mauvais bergers, mais c'est lui qui prend soin de nous. Il nous a donné un berger parfait, le bon berger, Jésus. Quant à nous, il nous demande de prendre soin les uns des autres. Utilisons dans l'Église les dons qu'il nous a donnés pour prendre soin de chacun. Et à celui qui veut prendre soin de ses frères et sœurs, il a, avec le bon berger, le meilleur modèle qui soit. Merci Samuel d'avoir pointé vers le bon modèle.